Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Très heureux de vous retrouver dans ce programme que vous propose Radio Capi. Aujourd'hui, le débat sur Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen, c'est autour des prochaines élections en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu publique la semaine dernière la feuille de route qui comprend les différentes opérations qui vont de 2021 à 2027. À cette occasion, Denis Kadima, président de la CENI, a relevé certaines contraintes à élaguer pour tenir les élections en 2023, notamment l'indépendance financière de la CENI, la volonté politique, la production à temps des lois essentielles, la mutualisation des opérations d'identification et des recensements avec l'enrôlement des électeurs qui doit être faite sans lenteur pour respecter le délai constitutionnel ainsi que la sécurité, surtout dans la partie est du pays. Alors comment analysez-vous cette feuille de route? Si vous désirez participer à ces débats, composez le 081 890 49 69. Aussi, faites-nous parvenir vos commentaires sur notre page Facebook. Bob Landou et Priscilla Badjoko concourent à la production et la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo, Luabung, Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous recevons dans ce studio Jérôme Bosso, Bosso qui est avec nous. Bonjour Monsieur Bosso.
Bonjour Monsieur Gère.
Alors vous êtes le président de la LINELITE, la Ligue Nationale pour les Élections Libres et Transparentes en RDC. Mais d'entrée de jeu, alors une feuille de route fait-elle office d'un calendrier électoral?
Pas du tout. Une feuille de route, c'est un instrument interne de la Commission électorale nationale indépendante. Et par le souci de transparence et de clarté, c'est pourquoi la Commission électorale nationale indépendante a voulu publier, rendre ça public, pour que les parties prenantes puissent aussi prendre acte de cet outil de gestion interne, mais à caractère public. Et c'est là où le calendrier électoral viendra après d'autres étapes. Parce que ce calendrier électoral, c'est la différence entre la feuille de route, c'est quoi? Calendrier va être opposable parce que les délais qui seront retenus dans ce calendrier électoral seront être imposés à tout le monde, faute de quoi les élections ne pouvaient pas se tenir dans le délai constitutionnel. Mais fait de route précède le calendrier électoral. Ça trace les pistes. C'est comme le choix électoral.
Un tableau de bord
qui vous donne les quatre points cardinaux électoraux, sans lesquels vous ne pouvez pas vous en parler. C'est pourquoi on a publié ça. C'est là où nous disons qu'on doit faire attention, calendrier viendrait, et aussi le budget estimatif de la Commission. Combien coûteront nos élections cette fois-ci? Ça sera plus coûteux par rapport aux élections précédentes, ou bien moins coûteux. Et c'est là la question que nous allons aborder au niveau de l'analyse technique de ce calendrier.
Est-ce que ceux qui redoutent qu'il n'y ait pas élection en 2023 au regard de cette feuille de route ont-ils raison?
Ils ont raison d'une part, ils ont raison d'autre part, ils n'ont pas raison. Ils ont raison parce qu'au regard du temps qui nous est imparti pour. Quand vous voyez la feuille de route c'est telle que présentée, quand on fait une analyse technique de cette feuille de route, vous voyez qu'il y a des éléments qu'on appelle les éléments techniques qui sont mélangés ensemble. Elles sont faites aux opérations électorales critiques et aux opérations électorales non critiques mais transversales. Donc quand vous prenez les opérations électorales critiques, qu'est-ce qu'on entend par opérations électorales critiques? C'est l'ensemble des tâches. C'est un ensemble de tâches critiques à remplir dans le temps imparti pour arriver à l'achèvement du délai constitutionnel. Et on nous dit que si une des tâches critiques dans cette structure n'est pas respectée, ça va impacter d'autres dates, ça va pousser l'écusseur électoral vers au-delà de 2023. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'experts, nous avons listé 36 dates critiques, opérations électorales critiques et 12 opérations critiques opérations électorales non critiques et transversales. C'est de là où, quand il y a une opération qui sort de cela, c'est là où ça a découlé maintenant les contraintes. Les contraintes qui sont sorties. Par contrainte, nous voyons le temps, facteur temps. Quelles sont les opérations qui peuvent nous consommer beaucoup de temps? parce que nous sommes partis du fait que nos élections pour le mieux préparer, ça devrait commencer en avril 2021 pour se terminer en février 2024, date de prestation de serment. Mais nous commençons aujourd'hui en février 2022. Nous avons déjà un retard de 11 mois. Ça fait 330 jours. Or, dans le planning d'avril 2021 et janvier 2024, on a une fourchette de 1000 jours. Or, nous avons déjà consommé 330 jours. Les 330 jours sont déjà consommés. Et comment le récupérer? C'est là où nous parlons du chemin des activités électorales critiques et des activités non critiques. Et si critiques, c'est quoi? C'est là où nous avons demandé à la CENI. Pour s'en sortir avec peu de temps qui reste, vous devez recourir à ce qu'on appelle la réduction des temps ou avoir des délais compressés. Compressé, c'est-à-dire vous avez une activité qui devait vous faire 400 jours, 300 jours, vous allez faire, par exemple, 250, vous voyez, 250, c'est des délais critiques, mais vous allez compresser 220. Mmh. Et tout ça, ça va avoir impact sur le reste de
Mais on sait que l'opération principale dans ces activités électorales, c'est l'opération d'enrôlement. Alors, est-ce que l'opération d'enrôlement à ces jours peut-elle être possible dans les temps record d'une année qui nous reste?
L'enrôlement, ça va se faire cette fois-ci à deux niveaux. Tout d'abord, c'est la CENI qui doit faire le fichier électoral. Dans la planification, ça doit prendre 400 jours.
400 jours.
Mais parce qu'on doit faire le fichier électoral pour enrôler les électeurs, M. Gère, on va sur base de quel document?
400 jours, c'est à peu près 10 mois.
Gère, on va le prendre sur base de quoi? Parce que je ne peux pas vous enrôler, M. Gère, sur base de quel papier vous avez pour être enrôlé. Parce que sinon, nous allons enrôler tout le monde. Donc, ce qui distingue l'homme gère en tant que Congolais et d'autres, c'est la carte d'identité. Nous avons triché avec les élections précédentes. Nous sommes allés comme des moutons à l'abattoir, sans pièce d'identité, et ça crée. Maintenant, cette fois-ci, c'est quoi? CENI sera bloqué du fait qu'il ne peut pas faire déjà l'opération d'enrôlement sans que ça soit précédé par le recensement. Parce que je vais me présenter chez CENI avec quel document? Avec la carte d'identité. Et la carte d'identité est produite par d'autres structures.
Mais il y a déjà une base de données, il y a déjà un fichier électoral. Pourquoi encore exiger d'autres cartes d'identité? Pourquoi ne pas faire seulement le nettoyage du fichier? Enlever, élaguer le doublon, élaguer.
Ça, c'est de l'amateurisme. Ça, c'est de. Vous allez violer la loi. Parce que vous allez élaguer. Oui,
des doublons.
Des doublons. De qui?
Ceux qui sont morts.
De quels citoyens? Congolais? Est-ce qu'ils sont congolais?
Donc forcément, il faut recensement.
Non, oui, il faut congolais. Ils sont congolais. Et demain, vous allez enregistrer les étrangers qui sont nombreux. Ils vont aussi se pointer là-bas pour être enrôlés. Quelle différence? Vous savez que nous ne sommes pas partis à la CAN, M. Gère. C'est parce que on nous a arraché notre victoire. Le Gabon a présenté un Kanga comme un Gabonais. Nous étions convoqués en Suisse par TAS. Tribunal arbitral du sport. On a demandé, le Gabon, le TAF a demandé à notre FECOFA, prouver que Kanga est congolais. Il habite Ngiringiri, ses parents, c'est voilà.
Confusion totale.
Présentez les documents. Et nous avons présenté la carte d'électeur. TAF a dit non, carte d'électeur, ce n'est pas carte d'identité. Mm-hmm. Or, la CENI d'hier avait commis une maladresse de ne pas demander au Premier ministre de prendre un décret pour dire en République du Congo, la carte d'électeur fait office. Voilà une situation juridique qui manquait. Mm-hmm. Et on a demandé à FECOFA par le TAF. La FECOFA n'a pas produit les documents. Carte d'électeur,
donc
on a rejeté.
On se retrouvera devant cette difficulté.
C'est cela.
La CENI aura cette difficulté.
Il s'est bloqué. Et c'est de là que nous anticipons pour la mutualisation. Mm-hmm. On doit faire la mutualisation des opérations d'identification. Maintenant, il y a des services qui interviennent. Il y a une confusion. Parce que là, il y a le ministre du Plan qui dit c'est moi qui dois faire ça. Mm-hmm. Il y a le ministre numérique qui dit c'est moi qui dois faire ça. Intérieur, c'est moi qui dois faire ça.
Et toutes ces discussions, tous ces débats nous passent l'éternité.
Au lieu de lever le sommet. Quand vous prenez la CENI avec son fichier électoral, ça prend 400 jours. Quand vous prenez l'affaire d'identification, ça fait 360 jours. Vous mettez ensemble, ça fait déjà.
Nous sommes partis deux ans.
C'est deux ans. Or, nous proposons, nous en tant que planificateurs électoraux et spécialistes en matière électorale, nous avons dit qu'il faut qu'on puisse mettre ça en harmonie, qu'on puisse travailler sur base de concordance, c'est-à-dire ONIP, CENI et INES. bercé et il travaille en contrôle. Mais les ministères interviennent pour dire c'est moi un numéro qui doit faire. Et yeah, c'est là où on va constater l'inflation des centres d'identification et tout le monde va faire n'importe quoi et le temps, ça va bloquer. Résultat, glissement. Et c'est pourquoi nous disons que le temps très, très, très important.
Un élément important.
Important, le facteur temps. Et c'est là que nous avons dit à la CENI, toute affaire ces centres, il faut se mettre à privilégier les impressions. Par exemple, commande de matériel. Et ça va prendre 223 jours. Ça nous rentre à 223 jours.
Identifier d'abord le matériel que nous avons, voilà, qui sont restés des élections précédentes.
Est-ce qu'il existe
un rapport? Il fallait faire le rapport de ce qui existe,
l'état des lieux. L'audit de ce qui existe. Ça existe encore. Parce que nous sommes sur le terrain de la CENI locataire.
N'oubliez pas que la CENI avait connu aussi l'incendie.
Dans son dépôt. Mais la CENI
avait perdu.
La CENI n'a même pas ses propres entrepôts. La CENI est locataire des entrepôts. La plupart des entrepôts de la CENI dans les provinces, les bailleurs ont chassé, ils ont jeté le matériel dans la rue.
Et ça, comment on va le récupérer? Avant d'ouvrir les standards, est-ce que nous ne sommes pas là devant une situation qui se répète, ce qui a été en 2016, qui se répète aujourd'hui en 2000? Parce que c'est toujours une année que les débats s'invitent dans ce sens-là.
Parce que nous sommes incapables de faire une planification, l'anticiper sur la planification. La planification incitative qui devait venir du gouvernement, le gouvernement n'a pas fait cette planification. CENI vient de faire la planification à travers la feuille de route au mois de février. Or, ça devait avoir lieu en 2021. Et nous le faisons aujourd'hui. Or, il y a encore l'autre goulon d'étranglement. C'est trois options que le Parlement doit lever. Première option, c'est l'élection du président de la République. Deux tours ou un tour. C'est l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs et sénateurs à travers un scrutin direct. D'autres options, c'est le vote des Congolais de la diaspora. L'enrôlement des Congolais de la diaspora. Ça, c'est l'Assemblée nationale qui devait lever le ton. Si on lève une de ces options, conséquence, on va réviser la constitution. Si on accepte qu'on doit aller avec le Congolais de la diaspora, dans le peu de temps qu'il
faut
encore, on doit glisser.
La loi électorale.
Quand on part du côté de la loi électorale, on va faire la loi. Parce que c'est là où nous disons que l'Assemblée nationale puisse doter la CENI des lois. À temps. Or, nous avons déjà une proposition de loi électorale dénommée loi électorale Lokondo et d'autres initiatives. Est-ce qu'on peut le faire à temps pour qu'on puisse... Est-ce que notre Assemblée nationale va prioriser à ce qu'on fasse à temps? Or, dans l'environnement électoral, dans l'environnement politique actuel, quand on va rentrer le 15 mars, la priorité c'est quoi? Remplacer Kabound. Quand on remplace le bureau, on vous dit non, priorité c'est quoi? Il faut faire tomber le bureau. Et quand on fait le père, le bureau...
Et puis finalement, on est parti.
Le curseur électoral est en train de courir. Et voilà. On ne sait pas qu'on a des priorités.
Voilà, président Bosso, on va ouvrir les standards et accueillir les auditeurs et qui ont souhaité également intervenir dans cette émission parce que ce débat fait couler beaucoup d'encre et de salive. Y aura-t-il les élections en 2023? Oui ou non? Le débat est ouvert. 081-890-63-30 ou encore les 0-81-890-49-69.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Olivier, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Oui, J.R., bonjour et bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
Comment analysez-vous cette feuille de route proposé par la
CENI? Non, JF, c'est pitoyable, ça fait très mal au cœur, parce que quand vous lisez les contraintes que Tadima a soulevées, il y a des contraintes qui font peur. Il parle de la volonté politique comme contrainte. Donc ça signifie que déjà, lui-même doute de la volonté politique d'organiser les élections. Et effectivement, avec tout ce que nous voyons dans la République, on ne sent pas que les gens se préparent pour les élections. Donc ça fait déjà 3 ans que le pouvoir est là, mais donc il n'y a rien qui est prévu pour que les élections soient organisées dans le délai constitutionnel. Ça c'est un premier problème. La volonté politique, donc on sent qu'elle n'y est pas. Deuxième contrainte qui fait peur, c'est la sécurité, il parle, la sécurité à l'Est. Et de ce côté-là, tout le monde peut douter, tout le monde a le droit de douter que vraiment, on voudrait bien organiser les élections. Et n'oublions pas que à 2018, on a dû écarter certaines parties de la République. Donc je crois que c'est cette même logique-là qui risque d'être appliquée à 2023. Mais avoir ce qui se passe, je crois qu'il y a des problèmes très sérieux.
Voilà, alors, Olivier, si je comprends bien, pour vous, vous estimez que la feuille de route présentée par la CENI, qui est d'ailleurs du reste un instrument interne, un instrument de travail interne pour la CENI, exprime clairement les doutes présentés par le président de la CENI lui-même, pour dire qu'il y a du doute, de forts doutes, qu'il n'y ait pas élection en 2023.
Oui, je crois que ça va au-delà du doute. C'est comme une certitude. Parce que l'autonomie financière, la sécurité et la... Mais moi, ce qui me fait mal, c'est la volonté politique. Quand il prend ça comme contrainte, lui qui est en contact
comment comprenez-vous la volonté politique? Parce qu'on entend souvent, depuis toujours, on a toujours entendu parler de la volonté politique. Comment comprenez-vous cette question de la volonté politique?
Non, parce que moi, cette volonté politique, je me dis que du moment qu'il y a la Constitution, du moment qu'il y a les... On avait déjà dit, voilà, dans tous les cinq ans. Mais il n'y a plus de question de volonté politique parce que c'est une chose qui doit être faite automatiquement. Pour moi, ça signifie que dès que le gouvernement Ilunga Ilukamba était entré en action, déjà, on devait commencer à se préparer pour les nouvelles, les prochaines échéances. Et dès que Samalou Kone est arrivé, il devait s'assurer que les prochaines échéances seront respectées. Or, jusque-là, quand on dit volonté politique, ça signifie que M. Kadima n'a rien vu comme préparatif pour les élections. Il n'a rien vu. Et il conclut que...
Donc, il n'a pas vu de signaux clairs de la part de ceux qui engagent le pays dans cette voie, c'est ça?
Oui, oui. Donc, M. Kadima n'a rien vu, et maintenant, il nous présente ses difficultés. Et donc, vous comprenez que nous n'avons plus qu'à croiser les bras. Et on ne va pas croiser les bras. Et je crois que le débat doit continuer. Alors, le problème des lois, là aussi, il y a un Parlement. Et ce sont des choses, quand on doit revenir sur un seul tour, deux tours, on veut nous montrer clairement qu'en 2023, il sera impossible.
Merci beaucoup, Olivier. Alors, on va... Maître Mbokolo, vous êtes avec nous?
Oui, bon, allô?
Oui, Maître Mbokolo, vous avez la parole.
Oui, bonjour, Monsieur Gilles. Bonjour à tous les auditeurs et à l'invité.
Quelle est votre lecture?
Bon, moi, je pense que ma lecture est positive. Je ne saurais pas être trop négatiste. Je pense que, vous savez, le problème du processus électoral, c'est un problème, bien sûr, c'est la volonté politique, mais c'est un problème qui exige la volonté combinée imprimée de toutes les parties prenantes. Je pense que nous avions suivi depuis 2021, l'année passée, où nous étions dans une étape où il fallait désigner les membres de la CENI, et vous avez vu comment, entre guillemets, ce qui s'appelle de l'opposition, sont parvenus à bloquer le système. Et pour la désignation des membres de la CENI, ça nous a pris largement du temps, jusqu'à ce que nous puissions arriver là où nous sommes. Et aujourd'hui, M. Kadima qui a présenté la feuille de route 2021-2027, je pense que c'est tout à fait normal. Et les contraintes qui sont soulevées dans la feuille de route, ce sont des contraintes qui existent depuis à l'époque de Abe Apollinaire Malumalu, Ngoy Mulunda jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont les mêmes contraintes, notamment l'indépendance financière. Et, parce que ici, les gens doivent savoir que quand on dit la feuille de route n'exprime pas les doutes, vraiment c'est l'incertitude, ça c'est vraiment une fausse affirmation. Parce que ce que Kadima a relevé, je prends par exemple le problème de l'actualisation des lois. C'est un problème qui nécessite la volonté des parlementaires. Ce n'est pas le problème de Kadima ni du chef de l'État. Le problème qui concerne le recensement de la population et l'enrôlement des électeurs. D'abord, pour enrôler, il faut d'abord recenser la population, comme l'invité vient de l'expliciter clairement. Parce qu'il faut que les Congolais soient impeccablement identifiés. Donc vous constatez que ici, le problème, c'est un problème qui concerne toutes les parties prenantes. L'insécurité à l'Est, M. Gier. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous allons soulever ce problème. Si M. Kadima a relevé ça dans sa feuille de route, c'est justement, ça fait normal, il ne pourrait pas élarguer cet aspect du jeu, parce que depuis les élections de 2006, il y a toujours un problème d'insécurité à l'Est du pays.
Mais Christian, cette question devait-elle être encore posée à ces jours, dès lors qu'on sait... En 2018, il y a une partie du pays qui n'a pas pris part aux élections parce que on a évoqué la question des Ebola, on a évoqué la question de l'insécurité à tous les niveaux sanitaires ou encore politique, qui a mené une partie, Bénin notamment, qui n'a pas participé aux élections. Alors, faut-il continuer à évoquer cette question encore aujourd'hui? Je ne sais pas s'il faut encore nous permettre de nous tourner, de réfléchir de manière objective sur cette question.
Bon, je pense que la question de, vous savez, il est vraiment difficile, il faut que je le dise clairement, que cette question d'insécurité, aujourd'hui soit résolu. Hein. Même avec l'état de siège, vous constatez qu'il y a toujours des incursions.
Donc, aussi longtemps
à tout
que ça ne sera pas résolu, cette partie du pays n'aura plus droit à participer aux élections.
Résolu. Oui, mais moi je voudrais affirmer ici que, je voudrais affirmer avant de terminer que, en tout cas, les chefs de l'État lui-même, en tout cas, en faisant une lecture positive, a la volonté d'organiser les élections. Mais les élections doivent suivre le processus normal et que ça demande une volonté de toutes les parties prenantes pour que les élections aient lieu. Et si on arrive en 2023, les élections ne se tiennent toujours pas, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont extrajudiciaires, mais qui peuvent impliquer tous les partis, qui peuvent permettre que nous puissions aller ne plus que 3, 4, 5 mois de entre guillemets, glissement. Et en fait, que les élections aient lieu, donc c'est clair, nous devons soutenir, tenir les chefs de l'État, parce que la paix des routes, vraiment, c'est un instrument, même si interne, mais ça donne déjà les intentions de pouvoir organiser bel et bien les élections.
Voilà, merci beaucoup, Maître Mbokolo, d'avoir appelé. Alors, Jean-Baptiste Eleni, vous êtes à Kisangani, bonjour et bienvenue, la parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Jure, bonjour à l'invité, je crois que je ne suis pas Kisangani pour le sang, je suis à Riwara, en territoire d'Arusha, en Ituri.
Vous avez la parole, quel est votre avis?
Ah oui, ben je pense que nous sommes dans une situation très complexe, ça c'est ce qu'il faut retenir. Je salue quand même les analyses de l'invité, hein. L'invité a presque tout dit parce que, oui effectivement, il y a un problème de manque de volonté, ça se ressent par cet déplaisir de planifier les choses, parce que la question électorale qui devrait venir en 2023 devrait déjà être préparé depuis 2021, si on avait réellement cette volonté-là d'aller aux élections. Mais ce qu'il faut retenir aussi, qu'on est là, on est là en train de vouloir quelque chose, et c'est au contraire. Dans quel sens? Je m'explique. Voyez, on est en train de demander, n'est-ce pas, la condition sine qua non pour que nous puissions aller aux élections de 2023 et d'avoir fait le recensement. Et de l'autre côté, on est en train d'exiger l'organisation des élections pour le gouverneur, dans des provinces dont le gouverneur ont été déjà destitués. Mais imaginez, où trouverons-nous le financement de toutes ces actions que nous sommes en train d'organiser? Alors que, de l'autre côté, Denis Kadima, président de la centrale électorale, est en train déjà d'évoquer la problématique financière pour aller aux élections de 2023. Vous voyez qu'on est là dans un paradoxe, on est là dans une situation très confuse. Et ça nous montre, effectivement, ces signaux de gens nous montrent que on n'a pas cette volonté manifeste d'aller aux élections.
Oui, Jean-Baptiste,
parce qu'on doit...
Oui, allez-y. Donc, vous dites que vous doutez, comme vos prédécesseurs, de l'organisation des élections en 2023, au regard de ces contraintes présentées par la CENI.
Oui, exactement. Il y a, en tout cas, il y a un doute très manifeste et très clair d'aller aux élections.
Alors, il y a un auditeur qui a posé la question. Est-ce qu'après la passation pacifique et l'alternance au pouvoir, avions-nous encore le droit d'évoquer de telles contraintes pour l'organisation des élections?
C'est désolant parce que la RDC n'est pas nouvelle dans l'organisation des élections. Nous avons eu des élections qui ont été organisées déjà en 2006 à 2011, en 2018. On devrait déjà en tirer des leçons. On devrait déjà voir des choses que nous devons rectifier pour aller de l'avant. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous sommes en ce niveau, ou tout simplement, c'est ce que je disais, et c'est quand même Denis Kadima lui-même a relevé, la question de mauvaise foi pour aller aux élections. Parce que, vraiment, avec les élections de 2018 que nous avions organisées, nous devrions déjà tirer des leçons, notamment la leçon de bien préparer des choses anticipativement, bien planifier des choses comme l'a évoqué l'invité. Donc avoir cette capacité-là de prévenir des choses pour qu'elles puissent aller.
Merci
et
beaucoup.
Donc c'est vraiment impossible de penser à la fois au recensement et à la fois à l'organisation des élections pour les gouverneurs dans des provinces qui sont dirigées par les vice-gouverneurs. C'est quasiment impossible d'aller aux élections dans
voilà.
Ces conditions.
Plusieurs opérations à la fois pour vous estimez que ça nous amènera dans une confusion et qu'il soit difficile d'organiser les élections à temps échu. Merci beaucoup Jean-Baptiste Leni d'avoir appelé de Kisangani. Alors on va écouter un regard politique. Et c'est un homme politique, Maître Clément Moussa Kayembe. Vous êtes avec nous, Maître Clément.
Oui, JR, je suis avec vous.
Vous êtes le secrétaire exécutif district Tchango, Lamuka ou Exidé?
Essidé,
voilà.
Secrétaire exécutif Essidé Tchango.
Voilà. Alors, vous avez suivi, comme nous, la publication de la feuille de route de la CENI. Comment l'analysez-vous?
Bon, vous savez que la question des élections, c'est une question importante pour l'avenir de tout un peuple et pour l'avenir de la nation. Lorsque nous allons aux élections, c'est pour que nous puissions avoir des institutions fortes, capables de consolider notre jeune démocratie, mais également de booster le pays vers le développement. Vous avez vu, prenons seulement les dernières élections que nous avons organisées en 2018, vous avez vu avec ces braquages électoraux où en sommes-nous aujourd'hui. Donc le pays est pratiquement déchiré, fracturé, et aujourd'hui nous n'avons pas des institutions fortes capables de d'amener le pays vers le développement. Donc pour revenir à cette feuille de route de la CENI, nous devons retenir plusieurs choses. Parce que comme vous le savez, cette CENI est totalement politisée. Que nous sommes d'ailleurs en train de contester, nous allons continuer à contester parce que nous voulons bien que nous puissions avoir des élections justes, des bonnes élections avec une bonne CENI. Et c'est une CENI qui a été imposée par l'Union sacrée, c'est-à-dire ceux qui ont la passerelle du pouvoir aujourd'hui. Donc bref, une CENI taillée sur mesure qui n'a qu'une mission d'organiser la fraude électorale. Donc vous imaginez que dans un pays comme la République démocratique du Congo, qui doit consolider sa jeune démocratie, mettre à la tête d'une CENI des militants des partis politiques, des gens qui sont issus pratiquement d'une même formation politique, pour ne pas dire d'un camp politique qui est l'Union sacrée. Donc en réalité, c'est une CENI à la merci de l'Union sacrée. Donc nous pouvons bien conclure que avec tout ce qui se passe maintenant avec...
Oui, alors Maître Clément, parce que nous sommes à la porte de l'organisation des élections, juste à quelques minutes, à quelques heures, à quelques secondes, alors si nous devons faire des analyses objectives par rapport aux contraintes, par rapport aux difficultés évoquées dans cette feuille de route par le président de la CENI, notamment la question de l'indépendance financière de la CENI, la volonté politique, parce que toutes les parties prenantes, y compris l'opposition, devaient notamment mettre l'eau dans l'air vin pour arriver à réfléchir et de manière objective pour l'organisation des élections en 2023. La volonté politique, la production des lois essentielles, la mutualisation des opérations d'identification et de recensement avec l'enrôlement des électeurs. Alors qu'en dites-vous?
Oui, mais Monsieur Gire, vous regardez par rapport à toutes ces contraintes. En réalité, nous n'avons qu'une contrainte. Et la contrainte, elle est constitutionnelle. C'est l'article 73 de notre constitution. Mais lorsque vous voyez ces contraintes-là, ce sont des contraintes voulues et entretenues par les pouvoirs en place, justement pour organiser la fraude électorale. Et lorsque M. Kadima parle des parties prenantes, mais il ne doit pas prendre le peuple congolais comme étant de gens de sous-hommes. Il parle de formation politique, il parle de parties prenantes, alors que lui-même est l'émanation d'un dictat de l'Union sacrée. Ça ne passe pas. Donc, toutes ces contraintes, en réalité, ce sont des contraintes voulues. Comment voulez-vous qu'un gouvernement responsable puisse commencer à organiser des élections juste à la veille? Il n'a pas son destin à main, c'est ça.
Alors, pour vous, qu'est-ce qui aurait été fait pour que, finalement, les délais constitutionnels soient respectés? Qu'est-ce qu'il a fallu?
Ce qui devait être fait, c'était d'abord d'opérer les réformes. C'est-à-dire que nous puissions avoir d'abord une CENI consensuelle. Parce qu'on ne peut pas avoir de bonnes élections avec une CENI partisane. Dans les cas d'espèce, nous avons une CENI qui est téléguidée par l'inaudite sacrée juste pour préparer une fraude électorale. Donc, à notre avis, nous qui sommes de la résistance, nous de l'incider, mais on ne s'identifie pas à cette CENI.
Oui, mais ce débat autour du consensus
aux bonnes élections.
Oui, Maître Moussa, ce débat autour du consensus est déjà derrière nous, parce que les élections sont devant nous. Alors, que faire concrètement? Parce que c'est cela la question. Qu'est-ce qui devait être fait? C'est vrai, vous dites, la CENI consensuelle, on n'a pas obtenu le consensus. Maintenant qu'il y a déjà quelqu'un qui doit organiser les élections, qui évoque les contraintes, que doivent être faits pour que finalement qu'on ait des élections et que on reste dans la ligne de passation pacifique ou encore de l'alternance?
Je pense que nous devons nous apesantir sur les fondamentaux. Parce que vous ne pouvez pas chercher, vous avez un champ de maïs, vous voulez avoir les maniocs. C'est impossible. Donc maintenant là, c'est impossible que nous puissions abandonner cette lutte pour un consensus. C'est ce consensus-là qui va nous permettre justement d'avoir de bonnes élections. Nous avons des bons résultats. C'est ça le soulagisme pour ceux qui ont la logique. Lorsque nous avons des prémices qui sont fausses, mais on va s'attendre à quelle conclusion? C'est-à-dire que nous avons un choix. C'est-à-dire que nous allons continuer à insister pour que nous puissions avoir un consensus, que nous puissions avoir des bonnes réformes sur cette question de la CENI, parce que c'est une question essentielle pour tout un peuple.
Alors, à quoi vos propos, c'est comme si vous soutenez la thèse du dialogue dans les jours à venir?
Non, c'est-à-dire que les gens peuvent bien parler de dialogue, mais vous allez vous rappeler que la Mouka a présenté un projet, une proposition d'un calendrier où tout était détaillé avec précision. Un projet, parce que nous voulons à ce que nous puissions avoir de bonnes élections dans l'avenir. Donc, ce n'est pas à la dernière minute qu'on va commencer
Maître Moussa, c'est vrai, on a compris.
Si jamais il y a un détour, on ne sera pas en mesure d'organiser des élections. Mais non, ça c'est dire que non, écoutez, vous m'avez placé là, et que maintenant là, vous ne m'avez pas donné de moyens, je ne sais pas, rien organisé. Mais si nous faisons un petit calcul, si vous voulez, mathématique. Mais la CENI a plus ou moins besoin, je ne sais pas, de 600 millions, on parle de 600 millions, et qu'aujourd'hui, quelle est la situation financière aujourd'hui? Donc, je vous dis qu'il n'y a pas une volonté politique pour le pouvoir en place d'organiser de bonnes élections. Donc, je pense qu'on va dépenser de l'argent, si jamais il persistait dans cette logique-là, pour rien.
Maître Moussa, on vous garde d'accord en ligne. On a compris un peu votre analyse par rapport à cette question. Le temps de retrouver également d'autres auditeurs qui ont émis la volonté de pouvoir participer dans cette émission. On rappelle à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent aussi composer les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur notre page Facebook ou encore sur www.radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Oui, avant de retrouver les auditeurs, nous revenons dans ces studios avec vous, Jérôme Bosso. Vous êtes le président de la LINELITE, Ligue Nationale pour les élections libres et transparentes, et vous êtes en même temps expert en matière électorale. Vous venez de suivre les auditeurs ainsi que Maître Moussa sur cette question de regard politique. Quelle est votre réaction?
Oui, merci. Avant la réaction, j'ai dit que je suis aussi coordonnateur de la plateforme de la société civile Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Donc, vous voyez, en commençant par Olivier, il parle de volonté politique, sécurisation, autonomie. Et nous, à notre niveau, en faisant une analyse, une lecture technique de ça, nous avons donné des contenus, des recommandations. Quand vous parlez de volonté politique, nous recommandons à l'opinion que nous puissions sensibiliser l'opinion pour que ces dirigeants puissent prendre conscience de la nécessité d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Nous demandons à ce qu'on puisse faire sentir que si vous ne donnez pas l'argent à temps, vous n'avez pas cette volonté qui est exprimée par le président de la République, qui tient à ce que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel. Cette volonté politique qui est exprimée par la Commission électorale nationale indépendante, cette volonté qui est exprimée par le gouvernement, à travers ses ministères, budget, finances et autres, des premiers ministres, et si vous ne le faites pas, vous allez contribuer au glissement du délai constitutionnel. À ce moment-là, leurs responsabilités seront partager. Et il y a aussi la préoccupation de sécurité. En ce qui concerne la sécurité, qu'est-ce que nous avons recommandé? Nous avons demandé à ce qu'on puisse procéder à nomination de groupes techniques pour qu'il y ait un plan de sécurisation du processus électoral. Ce plan de sécurisation contient beaucoup de moyens, et dans ce plan de sécurisation, on doit penser à former.
Mais il y aura des personnels qu'il faut recruter.
Tout à fait.
Il faut les payer.
Les agents, oui,
c'est inévitable.
2006, nous avons eu beaucoup d'argent de la part des partenaires techniques et financiers.
Mais où est parti cet argent?
Oui, on a fait ce travail. En faisant cela, en mobilisant le fonds pour la sécurisation du processus électoral, nous pouvons donner la chance à nos compatriotes qui sont dans des zones de conflit.
Non, la question, où est parti cet argent?
Non, l'argent de la question, c'est la question de l'État qui doit savoir là où c'est réparti.
Il faut un audit.
Il faut l'audit, il faut établir des responsabilités. Nous avons voulu aussi qu'on puisse accroître le nombre de policiers, et ainsi de suite. Il a parlé aussi d'autonomie financière. C'est quoi? Parce que la CENI travaille à ciel ouvert. La CENI n'a pas de provision mensuelle. Depuis que la CENI n'a pas encore eu le fonds pour faire le travail.
il n'a pas eu le moyen financier, le moyen matériel et le moyen logistique.
Mais toutes ces questions, je crois que je reviendrai aux politiques. Il y a l'honorable Boulay Mboukiloch qui va également nous rejoindre. Parce que quand on dit l'opposition d'hier, qui avait évoqué toutes ces questions et qui réclamait à son temps le nettoyage même du fichier, aujourd'hui cette opposition est au pouvoir. Mais comment se fait-il que le même problème demeure?
C'est ce qu'on a difficile à comprendre. Mais la capacité d'une nation et des acteurs ou bien des dirigeants, c'est la capacité de trouver, d'introduire des facteurs correctifs pour arriver au résultat. Le résultat qui nous attend, c'est quoi? C'est la tenue des élections en décembre 2023. Mmh. Et que faire? Nous trouvons devant deux problèmes majeurs. Problème temps, problème moyen financier. Le temps qu'on est obligé de réduire. Quand nous allons réduire le temps, quand nous allons compresser le temps, conséquence, ça peut être, ça passe ou ça casse. Ça va nous donner des élections de bonne qualité.
Est-ce que Ngoï Moulunda n'avait pas les temps? Ngoï Moulunda a organisé les élections avec les moyens, les fonds propres du gouvernement.
Oui, on a organisé les élections.
Même si c'était des élections chaotiques, comme l'ont évoqué certains experts comme vous, comme d'autres observateurs.
Dans 8 mois, ça n'a pas été. Mais ce qu'on a fait aussi avec
Nanga,
qui vient de passer, ces élections n'avaient pas la qualité. Pas impossible. Nous devons nous surmonter, voir comment le peu de temps qui reste, à qui nous avons demandé à la CENI de réduire ce changement de temps ou bien de compresser le temps de sorte que nous puissions arriver au résultat. Et c'est là intervient ce qu'on appelle le consensus. Le consensus, c'est la rencontre dans le cadre des concertations entre les parties prenantes. L'ami de l'ESIDE vient de partir et parler, qu'on se mette d'accord. S'il y a des casses, on s'assume, on endosse les casses. S'il y a aucun le résultat positif, on s'assume. Parce que ici, nous travaillons dans un environnement risqué.
Mais vous, en tant qu'expert en matière électorale, comment voyez-vous? Parce que le budget a été déjà voté au niveau du Parlement.
Ouais.
Ce budget ne reprend pas, en tout cas, selon les informations à notre possession, une rubrique élection.
Non, on a doté à peu près 10 milliards, c'est à peu près 500, 250 millions, bien 300 millions.
Mais on a besoin de 600 millions.
Oui,
on a besoin de 600 millions.
C'est de là où, comme stratégie, on doit recourir au budget actif de partenaires techniques et financiers. Mais eux aussi traînent le pied. Et c'est là où le procès électoral, du point de vue...
Mais les partenaires techniques financiers, ils représentent tous la communauté internationale. Et la communauté internationale crie jour et nuit qu'il y ait des élections, disons, en 2023. Alors, mais pourquoi ils ne mettent pas d'argent?
Mais c'est ça la...
Vous participez dans des réunions.
Le problème, c'est quoi? C'est la mobilisation. On doit sans...
nous avons c'est un problème de confiance, c'est un problème de crédibilité.
Nous avons demandé à la CENI de multiplier les contacts, tout d'abord avec notre gouvernement. Mmh. Que notre gouvernement montre déjà sa bonne volonté de ce qu'il dispose et ce qu'il doit mettre à la disposition de la Commission électorale indépendante. La provision pour la CENI. Quand vous ne donnez pas à la CENI l'autonomie financière, vous dites la Commission électorale indépendante est indépendante en quoi? Donné qu'il n'a pas l'autonomie financière.
Bon, les 200 millions qu'on a produits, qu'on a proposés, pourquoi ne pas mettre à la discussion?
Non, c'est encore au niveau d'intention.
C'est au niveau d'intention. On n'a pas encore mobilisé.
Au niveau d'intention, le ministre du Budget et le ministre des Finances n'ont pas encore concrétisé cela, cette volonté du président de la République.
Mais c'est chaque année qu'on récolte les 250 millions, je crois. C'est chaque année.
Mais vous savez que c'est...
Et les budgets, quand il y a des rubriques à report, c'est-à-dire on reporte même les budgets parce que les élections n'ont pas été organisées.
Non, quand la loi financière congolaise dit quoi? Quand on arrive à terme, le budget tombe en question, ça tombe, on ne le reporte pas. C'est là que nous avons dit, en tant qu'espère, qu'on puisse avoir un fonds pour les élections. Et ces fonds devaient être...
Même en termes des intentions, le budget aujourd'hui est établi sur les 3 ans. C'est triannuel.
Et ça va commencer quand? Ça va commencer à être utilisé au mois d'avril. Mais entre-temps, la CENI attend encore pour arriver au mois d'avril. On aura déjà 15 mois de retard. Et comment s'en sortir avec ça? Parce que le temps n'est pas avec nous. Mais c'est la classe politique qui se montre.
On reviendra avec vous, Jérôme Bosso. Le temps de garder également Maître Clément Mouza qui est avec nous. Mais... on prend Maître Mouza. Maître Mouza, vous êtes avec nous.
Oui, je suis en ligne.
Oui, les commentaires après avoir écouté également votre confrère, Monsieur Jérôme Bosso tout à l'heure.
Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt Monsieur Jérôme Bosso. Vous savez que c'est un expert en matière électorale, donc dans tous les cas, son point de vue compte. Mais comme vous êtes en train de le constater, nous sommes en face d'un pouvoir qui n'écoute personne, ni les acteurs politiques majeurs, ni le parti politique de l'opposition de la résistance. Donc ils sont figés dans un clan enveloppé d'un droit tout noir, où tout doit se passer comme l'Union sacrée le veut. Je pense que l'expert Mbosso a souligné la question du délai constitutionnel. Et c'est la la contrainte majeure que nous avons dans le cadre de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Vous savez que M. Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier, et si nous calculons par rapport au délai constitutionnel, normalement nous devons avoir des élections au mois d'octobre 2023. Donc ça tombe probablement en 5 ans, ça tombe un jour, disons, ouvrable, et on peut le repousser de 2 jours pour qu'on organise les élections vers le 22 octobre 2023. Et cela a été présenté en termes de proposition par la commission, la coalition Lamuka, parce qu'elle veut à ce que nous puissions avoir de bonnes élections. Et l'expert Mbosso a précisé que nous n'avons pas le temps. Et peut-être que nous n'avons pas les moyens. Mais ça, c'est une contrainte voulue par le gouvernement en place pour justement organiser les glissements que, en tout cas, notre population n'acceptera pas, et pas surtout les citoyens de mon parti, qui n'acceptera pas les glissements voulus par ce gouvernement, même pour une seconde. Et je pense qu'il a parlé aussi de la qualité de bonnes élections. Écoutez, JR, le peuple a trop souffert. Et quand vous regardez depuis 1960, toutes les crises que nous avons en République démocratique du Congo naissent toujours des élections chaotiques. Si en 2018, nous avons eu à organiser un braquage électoral, qui acceptera encore qu'il y ait encore un braquage électoral? Donc, on organise des millions d'argent des Congolais, on les dépense pour que, en fin de compte, que le peuple ne puisse rien avoir. Donc, je pense que lui, en tant qu'expert, il a parlé aussi du consensus. Nous ne perdons rien. En tant que politique, nous devons nous ressaisir si vraiment nous sommes patriotes et que nous aimons ce pays. Donc, moi, je pense qu'il a raison dans beaucoup de choses.
Oui, mais Maître Moussa, je note que vous voulez une chose et son contraire. En même temps, vous voulez qu'il n'y ait pas glissement. Et en même temps, vous insistez, en tout cas, quoi vos propos, qu'il y ait ce consensus qui renvoie tout de suite au dialogue.
Monsieur Gilles, soit on organise les élections pour que nous puissions avoir des individus et non pas des institutions fortes, soit on organise des élections pour que nous puissions avoir des institutions fortes. Ce n'est pas à la dernière minute qu'on prépare une élection. Nous avons présenté un plan de sortie de crise à travers le président Élu Martin Fayoulou. Mais c'était justement pour préparer les bonnes élections. On commence par les réformes et ainsi de suite. Et lorsque nous avons proposé l'année passée le calendrier électoral, mais tout était détaillé avec précision. Donc aujourd'hui, c'est que le peuple congolais veut. Je pense que c'est sorti aussi de la bouche d'un expert. Les consensus autour de cette question importante. Parce que tant que nous n'aurons pas organisé des élections, de bonnes élections, mais nous n'aurons jamais des institutions fortes. Jamais nous n'aurons des institutions fortes. Nous aurons peut-être des hommes forts, mais au final, ce n'est pas la République qui va gagner. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons continuer à insister sur ce consensus, sur cette question importante de la vie nationale qui est les élections. Nos pères de l'indépendance l'ont fait pour l'indépendance. Donc nous n'avons pas d'excuses. Donc nous continuons à dire à nos amis de l'Union sacrée, ils doivent se ressaisir. Ce que Kadima a fait, nous n'avons pas besoin des individus, mais nous avons besoin d'une institution forte qui est la CENI. Donc vous voyez déjà avec la feuille de route, mais tout le monde se voit dans les incertitudes d'organiser de bonnes élections. Mais au final, qu'est-ce que nous aurons? Si aujourd'hui l'Union sacrée prépare la fraude, parce que vous l'avez vu, le 17 juillet 2020, il y a eu la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution. Vous avez vu comment on a placé les gens au niveau de la CENI. Vous avez vu qui est le rapporteur. Vous avez vu la présence de Toto. Mais tout ça, est-ce que vous pensez vraiment
voilà.
Que
les cadres... Je crois que nous n'allons pas avancer rapidement dans le jugement des valeurs. Voilà, donc le débat ne tourne pas autour des individus. Merci beaucoup, Maître Clément Moussa Kayembe. Nous rappelons que vous êtes secrétaire exécutif SID, district Tchango. Merci d'avoir été des nôtres et surtout d'avoir apporté l'éclairage sur le regard politique que vous avez par rapport à la feuille de route qui a été proposée. A très bientôt, Maître Moussa.
Merci beaucoup.
Voilà, on poursuit cette émission avec vous, les auditeurs, 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue. D'un parole aux auditeurs, comme vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante a rendu publique la semaine dernière sa feuille de route qui comprend les différentes opérations qui vont de 2021 à 2027. À cette occasion, Denis Kadima, président de la CENI, a relevé certaines contraintes à élaguer pour tenir les élections en 2023, notamment l'indépendance financière, la volonté politique, la production à temps des lois essentielles, la mutualisation des opérations d'identification et des recensements avec la des électeurs qui doivent être faites sans lenteur pour respecter le délai constitutionnel ainsi que la sécurité, surtout dans la partie est du pays. Alors, comment analysez-vous cette feuille de route? Nous avons le plaisir d'accueillir également l'honorable Boulambou Kilocho qui est avec nous. Monsieur le député.
Bonjour JR, bonjour.
Alors, comment analysez-vous cette feuille de route?
Le débat, il est intéressant, ça c'est un. Deux, la volonté d'organiser les élections n'y est pas. Quand vous analysez tous les cas de fraude qui sont recensés, la Cour constitutionnelle, qui est un élément important, a été placée en violation des règles et de manière frauduleuse. Les coups d'État institutionnels qui sont comptés aussi sur la liste d'entraves. Et là, l'Assemblée nationale n'a plus sa physionomie à son installation. Il avait été dit que chaque groupe parlementaire choisissait la famille politique à laquelle il appartenait. Une seule fois, la législature. Je crois que nous n'en sommes plus là. On a rendu public une feuille de route. Mais la feuille de route, juste le document, la constitution du bureau, la mise en place du bureau, et qui s'est fait de manière cavalière et frauduleuse aussi. Il y a des commissions paritaires qui n'ont pas été des commissions paritaires, c'était l'Union sacrée qui a fait. Et tout ça, c'est des grandes entraves que nous avons. On n'a même pas encore commencé à identifier les électeurs. C'est un problème que nous avons. On n'a pas encore jeté un coup d'œil sur ce que doit être la loi électorale. C'est aussi l'autre entrave que nous avons. La volonté d'organiser les élections n'est pas là. Aujourd'hui, aucun article du budget de l'État n'a été voté avec un quelconque montant qui doit être orienté vers l'organisation des élections. C'est le gouvernement qui a élaboré ce budget. Il a été adopté en conseil des ministres, présidé par le chef de l'État. Mais alors, vous n'allez pas inventer les choses. La volonté d'organiser les élections de ce pays n'existe pas. La seule volonté perceptible, c'est celle de frauder. Et nous ne pouvons pas être un État si nous devons bâtir notre avenir sur des antivaleurs. Ça doit être noté. Ça doit être noté et clairement noté. Quand nous prenons la feuille de route, elle n'est constituée que d'entraves qui seront rencontrées quand?
Lorsque la CENI évoque la volonté politique, il ne s'agit pas là d'une question qui doit être réglée ou totalement gérée uniquement par ceux qui sont au pouvoir. L'opposition est concernée. Vous êtes aujourd'hui du FCC et vous êtes partie prenante du processus.
Nous sommes du FCC, oui. Mais voyez un peu la manière cavalière avec laquelle ils ont triché pour venir pêcher chez nous des gens, leurs hommes. Et qu'ils ont placé au mépris de toutes les règles démocratiques du pays. Ça, ce n'est pas sérieux. La volonté politique est de partir de qui a placé les gens à la Cour constitutionnelle de manière irrégulière. Qui est la personne qui a fait le coup d'État institutionnel? C'est connu. Et vous allez vous penser que cette personne-là a une volonté politique d'avancer? Non.
Et qu'est-ce qui nous garantit que vous qui faites de l'opposition aujourd'hui, vous avez cette volonté qu'on aille aux élections, qu'on aille des bonnes élections?
Mais nous sommes de l'opposition.
Parce qu'en son temps,
on a été la majorité.
L'histoire se répète aujourd'hui.
C'est la qui nous a fait basculer dans l'opposition. Nous, avec le pouvoir qu'on avait, on a financé nous-mêmes les élections dans ce pays. Dites-nous, quelle est l'économie qui est faite pour que le pays soit d'ailleurs d'abord autonome par rapport à l'organisation des élections? Rien. Mon cher ami, mes chers amis, on ne doit pas se leurrer. La volonté n'est pas là. Monsieur Kadima est parti à la CENI. Il connaît les difficultés qui sont là. Et il connaît de quel bord il va jouer.
Alors,
honorable Boulamboukilosho, nous garantit quoi que ce soit.
Alors, honorable Boulamboukilosho, vous êtes de l'Est. En tant que notable de l'Est, aujourd'hui, lorsqu'on évoque la question de la sécurité dans cette partie du pays, qui constitue aujourd'hui une épine, hein, même dans le processus électoral. Parce que on sait qu'en 2018, il y a une bonne partie de cette partie du pays qui n'a pas pris part aux élections. Et vous, en tant que notable, qu'est-ce que cela vous fait? Et lorsqu'on évoque les mêmes contraintes pour l'organisation des élections de 2023, ne craignez-vous pas, ne redoutez pas, vous, que les concitoyens de la partie Est ne puissent pas faire partie des élections en 2023?
Toute la bande du Turi, en passant par le Grand Nord, du Sud Kivu, le Nord Kivu lui-même, le Sud Kivu, jusqu'au Tanganyika. Il n'y aura pas d'élection crédible là-bas. Il n'y a que la guerre. Il n'y a que la guerre. On sent l'odeur de la guerre. Les tueries tous les jours. L'État ne veille pas sur ses citoyens. Il ne protège pas ses frontières. Quel est ce pays qui peut organiser des élections sans fermer les frontières? Alors que nos frontières sont poreuses. Les Burundais se battent avec les rébellions chez nous. Les Rwandais se battent avec les rébellions chez nous. Et ils ont occupé tout l'espace. Les populations se sont déplacées à dessein. Vous voulez quoi? Si vraiment on voulait les élections, la première des choses pendant les 3 années ici, c'était de faire revenir la paix dans la partie est du pays. Et regardez bien la partie est du pays. En termes de population, c'est l'Est qui a le gros nombre d'électeurs.
Au niveau de base des données, oui.
Mmh. Oui, au niveau de base des données. Et alors, vous n'avez pas la maîtrise de tout ça. Vous allez faire quelles élections? Il n'y a pas la volonté, c'est la tricherie. Voilà. Qui est le leitmotiv de ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas de volonté politique pour y arriver. Votre service d'identification des Congolais, la carte nationale, elle est où? Nous sommes où, là, aujourd'hui? Nous sommes en vacances parlementaires. On revient mi-mars.
Mi-mars.
Et en juin, on repart en vacances. Mais ça se fera à quel moment?
Et c'est aussi une session
le
de tout.
Le gouvernement a déjà arrêté quelles mesures pour dire nous allons nous doter des moyens? Rien du tout. L'argent n'est que dilapidé. Les dépassements de crédit, tout ça, c'est des antivaleurs sur lesquelles nous sommes assis, monsieur.
Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, honorable. Nous vous gardons en ligne peut-être pour la conclusion. Voilà, on prend Kalo Jean-Boujimaï. Kalo, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, monsieur Iger, et bonjour à votre invité de l'opposition.
Quel est votre regard?
Oui, moi j'ai salué d'abord le premier pas de l'équipe de la CENI dirigée par Denis Kadima de nous présenter une feuille de route par les échéances électorales. Mais sinon, au niveau des contraintes, tout le monde est d'accord que tout ce qui a été retenu comme contrainte, c'est valable. Personne ne peut dire autrement. Mais je vais d'abord attaquer les problèmes par rapport à la volonté politique. J'entends vraiment votre invité parler qu'il n'y a pas une volonté politique. Si aujourd'hui nous sommes à ce niveau ici, moi je dis que c'est l'opposition qui a souhaité que nous soyons en retard. Pourquoi? Regardez ce qui s'est passé au niveau de la constitution d'abord du bureau de la CENI. Effectivement, c'est lui qui parle là, qui sont à la base plutôt et ses amis. Pourquoi? Parce qu'il fallait à tout prix composer les bureaux. Et je parle aussi pour ce qui est de la sécurité. Aujourd'hui, effectivement, la sécurité, c'est un problème à l'est de notre pays, effectivement. Mais nous ne pouvons pas dire que la sécurité d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est lié au régime actuel, parce que lui, là, quand il était au pouvoir, quand nous n'avons pas présent, quand les électeurs de Beni et ceux-là de Yumbi, si je me rappelle bien, ils n'ont pas pu présenter quoi voter pour le président. Ce n'est pas parce que le président actuel était au pouvoir, c'est lui là. C'est-à-dire, la sécurité aujourd'hui de l'Est, moi je dis,
c'est pour tout le monde. Tout le monde doit se mêler effectivement et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions admettre que nos amis qui sont de l'autre côté puissent voter. Mais ici, il faut aussi noter que le financement actuel, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le vider, mais lui est parlementaire. Ce qui est du financement, moi je trouve que si nous voulons.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne des calots. Je crois que c'est par ici qu'on va mettre un terme à cette émission. Hein. L'État nous fait défaut. Jérôme Bosso va publier ses rapports techniques, en tout cas des propositions techniques hein, que vous avez faites. Donc c'est demain déjà que vous allez le faire.
Oui, c'est demain. C'est demain à État et RSI que nous allons publier ce rapport demain. Demain jeudi, mmh. Et c'est dans le rapport que nous avons dit le mandat séquencé concerne le recensement, qu'on puisse mutualiser les efforts pour opter pour un recensement administratif à vision biométrique. Ça va réduire le temps et réduire aussi les moyens. Et nous avons aussi demandé à ce que le matériel, commande de matériel, qu'on puisse recourir au matériel local. Mmh. Et encre et autres, on peut utiliser nos universités pour nous produire cet encre invisible et qu'on donne le moyen financier rapidement possible à la Commission électorale nationale indépendante et à l'Assemblée d'élever l'option sur la réforme des lois et le vote de Congolais étrangers. On ne va pas aller à l'enrôlement sans carte d'identité. Cette fois-ci, c'est la carte d'identité. Donc, le recensement, la CENI, ONU et autres doivent travailler de façon concomitante pour produire la carte que le Congolais ait la carte d'identité. Et cela se fait au même moment. Faute de quoi, il n'y aura pas élection, on va déglisser.
Voilà, honorable Moulambou Kilosho, en une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelles sont les conséquences qu'on va tirer?
Ce que je retiens, c'est d'abord le barbissement de notre ami. Vous aurez dû lui laisser parler dans sa langue, la Kikasaï, et que quelqu'un traduise. Parce qu'il n'a rien dit et n'avait rien compris.
Merci.
Alors, ce que je retiens, c'est ceci.
Oui.
Ce que je retiens maintenant, c'est le temps, ils ont tout fait pour que le temps ne soit plus au rendez-vous. Il n'y a aucun moyen dégagé pour permettre déjà le recensement. Rien du tout. Et nous allons aller encore avec les mêmes cartes où les machines pour les produire ont été déjà
vendues
dans les pays voisins.
Voilà.
Alors, nous sommes quel pays finalement si nous devons toujours être là?
Wait and see, comme disent les Anglais. Merci beaucoup, honorable Moulambou Kilosho. Merci à Jérôme Bosso, expert en matière électorale. Et merci également à Maître Clément Moussa Kayembe, qui est le secrétaire exécutif, et Sidé Tchango. Tous, on a participé à cette émission. Avec les auditeurs ensemble, on a réfléchi. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.